Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast sur les sorties cinéma, et oh là là, on les a attendues, ces sorties cinéma. Plus de 6 mois à n'avoir à se mettre sous la dent que les sorties plateforme occasionnelles. De qualité variable, dira-t-on, et en tout cas pas une fréquence suffisante pour justifier qu'on se retrouve pour parler cinéma. Mais ça y est, les salles ont rouvert, et avec elles, nos petits cœurs de cinéphiles.
Oh.
Et c'est avec une grande joie aujourd'hui qu'on se retrouve autour de cette table pour ce nouvel épisode de La Troisième Rangée. Et à cette occasion, eh bien, nous accueillons notre tout premier invité de la saison. Bonjour Sébastien.
Bonjour tout le monde.
Alors Sébastien, dis-nous tout, qui es-tu ?
Qui je suis ? Vaste question. Alors bon, je crois que le plus simple, c'est de dire que je suis un gros cinéphile qui... Pour reprendre ton expression, Lila, je crois que les cinéphiles parisiens me connaissent comme le fantôme qui hante les couloirs des Halles, pour ceux qui connaissent, quoi. Donc voilà, 6 mois et demi sans cinéma, je crois que ça a été dur pour tout le monde, mais pour moi peut-être encore plus que pour n'importe qui. Donc, je suis ravi de vous rejoindre ici pour parler de cette reprise tant attendue et riche en films divers et variés. Et voilà, c'est un plaisir.
Nous sommes ravis aussi de t'accueillir. Tu as droit à ton... Non, attends, c'est à quel moment qu'on fait le deuxième applaudissement ? C'est pas grave, t'en auras...
C'est quand on refait un tour.
On sait quand on refait un tour, mais c'est pas grave. On peut refaire un petit applaudissement quand même.
Applaudissements.
Parce que pour ce retour, quand même, on va fêter ça, on va applaudir tout le monde plein de fois, si nécessaire.
On est un petit peu rouillé, on a besoin de s'en remettre.
Un petit peu rouillé, on a besoin de s'en remettre un petit peu. Et d'ailleurs, est-ce qu'on lui poserait pas une petite question un petit peu dérangeante ? Tu vois, le temps de. Comme ça, nous, ça nous.
Inattendu.
Ça nous déculpabilise un petit peu, on le regarde galérer, on se sent mieux. Alors, voyons voir. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Et je précise que je ne suis absolument... On ne m'a pas filé de petit papier avant, hein, donc je ne sais absolument pas à quelle sauce je vais te manger. Donc,
Tu parlais de questions dérangeantes. Bah, tes deux films malaisants préférés.
Ah, c'est bien, pas mal. Hein. En plus, ça serait la question très simple pour moi, parce que je suis adepte de films malaisants comme ça, mais pris en traître comme ça, va quand même falloir que je réfléchisse un peu, là.
C'est le bizutage. Tout le monde
deux
y est passé.
Deux films malaisants. Oh là là. Je crois que ça va durer un peu longtemps. Là.
Deux films malaisants avec Vincent Lagaffe. Hein. Attention, on précise. Hein.
On aura pris une brève coupure pub.
Là, honnêtement, là, je sais pas quoi répondre pour l'instant. Deux films malaisants. Il va falloir m'aider.
On a parlé un peu de cinéma coréen.
J'y pensais, ouais, mais après, il faut faire la différence entre malaisant.
Plus rien ne te met mal à l'aise, peut-être. C'est peut-être ça le problème.
J'ai tendance à.
Sans tabou.
En fait, choqué, vraiment choqué, non. Après, malaise, justement, si. Ça, c'est la question en fait qui paraît simple, mais c'est piège, parce que des films malaisants, si. C'est justement le plus dur aujourd'hui, parce que faire le film le plus violent qui soit, c'est simple, mais... Créer un malaise vraiment persistant, ça, c'est plus compliqué. Et du coup, je ne sais pas quoi répondre pour l'instant.
Il y a peut-être des malaises volontaires et des malaises involontaires aussi. Tu sais, il y a peut-être des films qui sont malaisants malgré eux.
Malaisants parce que c'est trop mauvais. On parlait de Luc Besson tout à l'heure. Donc voilà, je vais faire la simplicité, là.
Nous y voilà.
Et je vais répondre Anna, déjà, pour le premier film. Voilà, parce que quand tu te retrouves face à un truc à ce point auto-caricatural, en fait, et qui regroupe tout ce qu'on reproche à l'auteur en question depuis toujours... En surmultiplié, forcément, on a tendance un peu à s'enfoncer dans notre fauteuil, à se dire « mais pourquoi je suis là ?» quoi. Et pour citer un deuxième, pareil, en forme un peu de troll, tiens, ça me vient comme ça, là, voilà, ça sera pas dans du malaisant vraiment à la nez-queue, quoi, tu vois, je vais peut-être décevoir les gens, mais ça sera une comédie, enfin, ce qui est censé être une comédie, je sais pas si c'est vraiment le cas, qui s'appelle « My Movie Project ». Pour ceux à qui ça parle.
The infamous My Movie Project, parce qu'effectivement, c'est pas considéré comme un film très très réussi.
C'est un peu le film dont tout Hollywood, tout Hollywood a honte, qu'en fait, les stars d'Hollywood auraient préféré que plus personne n'en parle, quoi. Donc tu retrouves toutes les stars possibles et imaginables.
Et parce que c'était un film à sketch, donc il y a énormément de stars dans le film.
Voilà, il y a Hugh Jackman, Kate Winslet, enfin, je vais même pas dire Halle Berry, voilà, et c'est... Je pense que ça se voulait à la base comme un truc, peut-être une satire de Hollywood, un peu à la, je sais pas, hamburger film sandwich, des trucs comme ça, sauf que bah, je pense que ça a un peu échappé au contrôle de tout le monde.
Je l'ai jamais vu, mais ça me donne envie, là.
Je l'avais vu, en fait, voilà, je cite celui-là parce que je me rappelle l'avoir vu dans une salle défunte aujourd'hui, paix à son âme, UGC Orient Express, pour ceux à qui ça parle, et que bah, là, pareil, justement, la salle se vidait, et moi, au bout d'un moment, je me demandais pourquoi je restais là, en fait, parce que je...
Parce que c'est pas... ce film qui a tué la salle, il faut
c'était
le dire.
C'était pas drôle. Si vous voulez, voilà, commencer le premier sketch avec Hugh Jackman qui a des couilles au menton littéralement quoi dans un restaurant.
Ah oui, c'est ça.
Et face à Kate Winslet et il a les couilles qui trempent dans la soupe et voilà, bon voilà, tu commences comme ça, tu dis OK, ça va être sympa, ça va être folklore. Donc voilà, ça je pense que c'est une bonne définition du film malaisant peut-être malgré lui quoi, je sais pas et voilà, c'est sorti.
Moi je le regarde ce soir.
Je ressors. Allez, tous ensemble, soirée My Movie Project, c'est parfait.
Hugh Jackman, voilà.
C'était ça.
Ah bah voilà, je t'ai rappelé un triste souvenir.
Ah bah Orient Express, bon, donc
c'est... Justin, il a des flashbacks comme dans les films de guerre, des mecs ça. Qui se rappellent le Vietnam.
En surimpression, c'est tu ça, sais, sur nos visages, pendant qu'ils nous regardent. Tu crois qu'ils te regardent, François, mais non. Ils voient les couilles Hugh Jackman. C'est...
Sur son menton.
Très bien.
Voilà, je m'en suis sorti.
Bah, merci beaucoup.
J'aurais voulu sortir un film vraiment choc, mais bon, tant pis. Ouais.
Là, je pense que tu as déjà fait bien choc.
Voilà.
À sa manière. Bon. À côté de Sébastien, qui est-ce qu'on retrouve donc ? Mais ce ne serait-ce pas l'inénarrable Nam ? Nam, toujours vissé à cette chaise, d'émission en émission, fidèle au poste.
Vissé, j'étais pas dans l'appartement pendant quand on n'a pas tourné. Hein.
Ah bon ?
Bah oui, non, j'ai une
moi
vie
je,
aussi.
Moi, je sais pas. Moi, je te vois ici, j'arrive, tu es là, je repars, tu es là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe entre les émissions.
Il installe et désinstalle le matériel. Là.
Non, mais, clairement. Hein. Faut bien que je prenne le temps d'aller au cinéma aussi quand il est ouvert.
Ah.
C'est vrai, c'est juste. Très, très bonne remarque, Nam. Et dis-moi, Nam. Oui. Pendant ces longs mois de fermeture de cinéma, qu'est devenue ta vie ? As-tu eu un coup de cœur culturel à nous partager ?
On reprend les traditions.
Bah alors moi, je pense que les gens l'ont déjà pas mal vu, mais bon, j'ai regardé la série deux fois quand même. La série d'animation Invincible sur Amazon Prime.
Je l'ai vu.
Qui est très sympa, faut imaginer le fils de Superman, sauf que Superman est plus en mode... génocidaire, autoritariste, venu d'une autre planète pour apporter la paix et la liberté, mais à la manière de sa planète. Voilà. Plutôt sympathique.
Pour rebondir là-dessus, je trouve que ça ragardisse complètement The Boys. Je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus drôle, plus fin. Beaucoup plus...
Mais The Boys, si vous voulez découvrir The Boys, moi je vous conseille la BD. La BD The Boys, c'est un cran au-dessus de la série. La série, c'est gentil, tu vois. Ils y vont doucement.
Très bien. Et bien, François, puisque tu avais envie de rebondir là-dessus, on va te laisser rebondir encore plus. On va te laisser parler encore plus. Bah, déjà, bonjour.
Bonjour,
on t'applaudit.
Lila. Merci.
Et toi, François, quelle est ta découverte culturelle ?
Découverte absolument inattendue au travers d'un tweet où je vois qu'un groupe de K-pop coréen est entré dans le Billboard à la 18e place. Et je me dis, bon, je vais écouter. Moi, je suis comme toi, Lila, tu sais, j'aime bien Blackpink, donc je suis plutôt sensibilisé à cette musique. Mais tu vois, BTS, les trucs un peu avec du rap, moi, c'est un peu moins mon truc. Et là, je tombe donc, sur un groupe qui s'appelle Enhypen et qui a sorti un mini-album qui s'appelle Border Carnival. Et donc, au début, bon, je regarde le clip, je me dis, c'est sympa, un petit clip un peu ambiance vampire et tout, c'est cool. Puis alors après, je regarde la chorégraphie et je fais, waouh, la chorégraphie, elle est incroyable, c'est super. Puis après, je me dis, bon, il faudrait quand même que j'arrive à vous savoir un peu qui est qui. Je regarde qui est qui, je vois qu'ils ont fait une télé-réalité. Je binge 8 heures de télé-réalité dans la journée pour voir ce que c'est. Et voilà comment on devient un K-pop stan en une semaine.
On a perdu voilà, François, ça y est, il a mis le pied dans...
C'est terrible, dans la K-pop, ça y est, on y est.
Vous voyez Tony Montana, bah, c'est la même chose, mais avec la K-pop.
Et voilà, c'est ça. Et je sniffe de la K-pop à longueur de journée. Et je suis vraiment en boucle là-dessus, ça m'a vraiment... Je n'en dormais plus. La nuit, j'ai les mouvements de la chorégraphie qui me revient et qui m'agite. Donc voilà, Border Carnival, et je vous conseille la chanson Drunk Dazed, si vous voulez regarder le clip sur YouTube. C'est pas Bob Dylan non plus. Hein. C'est de la K-pop, mais c'est sympa.
Merci beaucoup, François, de nous avoir révélé cette facette inattendue de ta personnalité.
Pour moi-même.
Je les mots me manquent après un tel témoignage qui t'est livré à nous.
J'espère que, par contre, on a dit ma voix sera modifiée, hein, on est d'accord.
Oui, oui, bien sûr, Patrick.
Et ton,
oui,
merci. Ton visage sera flouté également.
On ne juge pas, on a tous nos faiblesses. Hein. Voilà, moi ça. Aussi, niveau musique, c'est peut-être un peu trop varié pour certains, je sais pas. Des fois, j'ai du mal à admettre certaines...
Toi aussi, ta playlist passe de l'Eurovision à Bob Dylan, à un vieux Michel Sardou
C'est une blague, ce que tu cites là, mais ça pourrait ressembler à peu près. Je peux prendre du plaisir à des trucs qui sont jugés inavouables, on va dire.
Voilà, nous avons tout ici, c'est un cercle de parole.
C'est un cercle de parole et ce soir, nous accueillons un autre cinéphile pas anonyme, Justin.
Bonsoir, bonjour. Ah.
Justin, vous remarquez qu'une fois sur deux, je dis bonsoir par habitude, mais alors qu'on enregistre, il est actuellement 17h, mais bon, écoute, bonjour, bonsoir, quand qu'il en soit, nous
sommes
ravis.
C'est basé sur le taux d'alcoolémie, c'est pour
voilà,
ça.
Voilà. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous, Justin, également, mais tu vas aussi y passer, et tu vas aussi devoir nous partager un petit coup de cœur.
Pour ne pas changer, je vais recommander un manga alors que j'ai découvert récemment qui s'appelle Kowloon, générique.
Kowloon,
ouais.
Kowloon. Sans le fan de manga, là.
J'ai pas très japonais.
Mais non, mais c'est hongkongais, c'est
ouais,
pour ça. C'est
Kowloon, générique romance de Jun Mayuzuki. Alors, c'était le mangaka qui s'était fait remarquer il y a quelques années pour son premier manga qui s'était Après la pluie, qui était une sorte de romance lycéenne, platonique. Très joli, et donc là c'est sa deuxième série qui raconte donc grossièrement ça se passe donc à Kowloon, donc à Hong Kong. Alors, en fait, Kowloon c'est une ancienne enclave qui a été détruite au début des années 90, mais une ancienne enclave de Hong Kong où voilà, il y avait toutes sortes d'une population un peu interlope avec des gangsters, des travailleurs, des prostituées, enfin toute une population un peu à la marge qui se trouvait dans cet endroit-là.
Alors je tiens à remercier Justin parce que ce matin, pendant une demi-heure, je cherchais à me rappeler du mot interlope et je me disais jamais je retrouverai ce mot. À quel moment de ma vie est-ce que ce mot se remanifestera à moi ? Et j'ai eu à attendre à peine quelques heures. Merci beaucoup, Justin.
De rien, si je peux rendre service, j'aurai quelques autres mots peut-être plus tard.
Oh, voilà. Maître Capello régale. Voilà.
Et donc ça se passe donc à Kowloon. Alors c'est un Kowloon. Qu'on ne situe pas trop dans le temps, c'est-à-dire il y a des éléments futuristes, il y a l'architecture de l'ancien Kowloon qu'on connaît, puis il y a des éléments également futuristes, et donc on va suivre un couple, des collègues de travail qui travaillent dans une agence immobilière, qui sont amoureux, mais ils n'osent pas trop se le dire, donc ils ont une relation un peu d'amour vache, et puis en toile de fond, il y a un espèce de mystère autour d'une industrie pharmaceutique. Donc il y a tout un mystère à la fois, c'est le côté romantique, un peu de proximité, qui rappellera peut-être pour les amateurs de Wong Kar-wai, les films de Wong Kar-wai des années 90, il y a quelque chose qui se rapproche de ça. Et donc avec surtout le grand talent de cette mangaka, c'est la mise en scène, c'est-à-dire la mise en page où, par exemple, le début du manga, il y a peut-être une dizaine de pages sans une bulle, quoi, où vraiment on découvre l'héroïne qui se réveille, son quotidien, et elle a vraiment un art pour ça, pour... développer le sentiment, l'état d'esprit de ces personnages par le découpage, la mise en scène, sans qu'il y ait de dialogue. Donc c'est un talent qu'on voyait déjà dans son manga précédent, Après la pluie, je crois que j'en avais parlé ici.
Oui, t'en avais parlé ici.
Et donc je recommande, voilà, le premier tome vient de sortir chez Kana, aux éditions Kana, donc voilà, c'est vivement recommandé.
On a feuilleté avec Nam, on valide, hein, ça a l'air bien.
Ça a l'air sympa.
Ça a l'air sympa.
Le cercle poursuivant sa course inéluctablement, cela revient à toi, Sébastien. Tu as droit à ton, du coup, troisième lot d'applaudissements.
Je pensais qu'on était sorti, là, avec les deux...
Non, parce que tu vois aussi devoir passer
par
le co-culturel, mais c'est magnifique. Alors vas-y, je te laisse le libre champ.
Je vais de quelque chose peut-être pas très original, donc peut-être certains d'entre vous ont parlé à un moment ou un autre ici, mais c'est pas grave parce que je suis en plein dedans en ce moment, donc je vais vous parler de Twin Peaks.
Ah!
Enfin, vous parlez.
Je suis pas
sûr que ça
le
soit.
Le top 1 série, quoi.
Voilà, je suis un gros fan de David Lynch. Je suis pas un gros fan de série, je tiens à le préciser. Donc, c'est pour ça que j'ai retardé pendant pas mal de temps le grand jour, quoi, où enfin je me lancerai dans ce fameux monstre télévisuel qui, dans les années 90, aurait absolument tout redéfini, qui passait sur la Défense 5, je crois, à l'époque. Les deux premières saisons, en tout cas. Et voilà, tout le monde me disait, même si t'es pas fan de série, t'es fan de Lynch, tu peux pas passer à côté de Twin Peaks comme ça. Franchement, t'as rien vu si t'as pas vu Twin Peaks. J'avais vu le film. Donc je
Ils
sais
ont
pas.
Raison, il y a pas de mensonge.
Ouais, 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 bah, maintenant j'en ai conscience. Voilà. J'avais vu le film Firewalk With Me, au fait, dont on m'avait dit à l'époque, bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose que tu vois celui-là avant la série, c'était
ça
pas fait.
Ça spoil un petit peu.
Ça spoil, ouais, voilà.
Genre les trois quarts de la série.
Voilà. Mais bon, en réalité, j'avais adoré le film et. Je vois, comme je vois beaucoup, beaucoup de choses, en fait, c'était un peu flou dans mon esprit. Donc, en fait, là, j'ai découvert la série un peu. J'arrivais plus, en fait, je me rappelais plus bizarrement du. Bon, voilà. Bref. Du coup, j'ai pu voir la série comme ça, comme si c'était. Comme si je connaissais pas le truc du tout. Bon, c'est un peu compliqué en fait, d'en parler comme ça après tout le monde, je sais pas trop, en fait, pas, surtout rapidement comme ça en rococulture, je pense pas que ce soit le but d'analyser la série, surtout que je suis encore en cours, en fait là je suis en train de voir la saison 3, donc la fameuse saison 3.
Ah oui, la fameuse The Return qui est arrivée 10 ans après, bah oui.
Ça... Plus de 10 ans même, parce que la, oui, même, les deux premières saisons c'était 90,
20 ans après même,
je crois, donc là c'était 2017, je crois.
C'est
la,
ça,
The
c'est
Return.
20 ans après. Quasiment.
Donc là je suis en plein dedans, tout le monde me disait que c'était vraiment le truc, enfin... complètement fou, indescriptible. Pour moi qui suis fan de Lost Highway et de Mulholland Drive, c'est genre ça, mais sur 19 épisodes. voilà, donc...
C'est un régal.
C'est difficile d'en parler comme ça, mais voilà, pour les fans d'univers totalement... qui n'appartiennent à... Enfin... qu'on n'a pas déjà l'impression d'avoir vu ailleurs. En fait, le mec, il a 75 ans aujourd'hui, quoi, s'il a fait ça, la saison 3. Là, je vais surtout parler de la saison 3, en fait, parce que c'est vraiment... Je suis en plein dedans, et c'est... Il y a vraiment une... Ça tranche avec les deux premières... Les deux premières saisons suivaient encore un canevas un peu de soap opéra. Ça parodiait un peu les soaps de l'époque, avec les intrigues comme ça, enfin, très capillotracté, quoi. Le romantisme un peu exacerbé, voilà, il y avait un côté pastiche de soap opéra avec quand même une narration encore un petit peu classique, quoi, malgré les bizarreries. La saison 3, là, on est vraiment dans le pur Lynch, totalement expérimental, avec des visions complètement jamais vues avant. Quoi. Le mec a plus de 70 ans, il arrive encore à créer des trucs où tu fais mais où est-ce qu'il va chercher ça, est-ce que c'est dans son inconscient que, est-ce que la nuit il rêve de ça? Franchement, je sais pas si j'ai vraiment envie d'être dans sa tête. Et en même temps, le mec c'est un génie, donc j'aimerais être un génie comme lui. Donc voilà, ça place dans un état d'esprit complètement. On regarde ça en état d'hypnose, quoi. C'est avant de lancer chaque épisode, en fait, c'est on est toujours en mode bon, qu'est-ce qu'il va me mettre comme image dans la tête là cette fois-ci là. Je pensais avoir déjà vu le maximum hier, mais là c'est le grand inconnu, quoi. Je sais pas ce que je vais voir, et ça, je regarde ça avant de me coucher, et je sais que voilà, je vais ça me laisser des images plein la tête.
Ça veut dire que tu as encore la chance de voir la fin de Twin Peaks The Returns pour la première
l'épisode fois. 8, je sais que tout le monde fait l'épisode 8, tu vas voir. Donc là j'en ai vu 6.
Ah oui, t'as pas vu l'épisode?
J'en ai vu 6. Donc...
encore voilà. Tant de belles promesses, hein.
Voilà. Twin Peaks, pour ceux qui connaissent pas encore, qui connaissent peut-être de réputation David Lynch sans vraiment savoir.
Et c'est très accessible malgré tout, on peut le dire. Je pense que.
Moi je les regarde en Blu-ray.
Au début, c'est une enquête policière, c'est plutôt assez simple, assez classique, juste avec des personnages un peu en couleur, et honnêtement, c'est facile de rentrer dedans. C'est pas un film pour moi. Une série, pardon, d'ailleurs, lapsus révélateur.
Ouais, c'est plus du cinéma que la plupart des
voilà,
films.
Il n'y a pas de barre d'accès, quoi. Faut pas hésiter à y aller.
C'est pas une London Empire.
Oui, voilà, c'est
les
très
deux premières
les choses.
Voilà. Les deux premières saisons sont vraiment. C'est voilà, qui a tué Laura Palmer.
Oui, voilà.
Dans l'inconscient collectif, je pense que les gens savent, quoi. Après, il y a des digressions, évidemment, des trucs lynchiens. Déjà, les deux premières saisons, il faut dire, c'est pas Lynch qui réalise tous les épisodes. Donc, il y a peut-être moins d'homogénéité, au fait, que dans cette saison 3, pour l'instant, où vraiment, c'est comme en effet, tout le monde l'a dit, enfin, c'est un long film de 19h.
C'est la cerise sur le gâteau, quoi.
Voilà, c'est vraiment le cadeau de Lynch à ses fans, et où il n'y a absolument aucune limite créative, mais voilà, Twin Peaks, je découvre enfin ce monstre télévisuel, et voilà, je suis content, quoi.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien. Moi, il me reste à passer derrière toi avec une série qui est bien moins un monstre
et on applaudit
télévisuel. Ah, ouais, ouais.
Donc, t'as le droit à tes applaudissements.
Mais merci. Moi, pour ma part, je vais vous parler d'une série peut-être plus anodine, mais que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année grâce à sa diffusion sur Arte.tv, et qui est la série de la BBC Inside Number 9. Donc, c'est une série réalisée par Steve Pemberton et Rhys Shearsmith, qui sont aussi les personnages récurrents de cette série, qui est en réalité une série d'anthologie, c'est-à-dire chaque épisode qui dure à peu près une demi-heure raconte une autre histoire, un petit peu comme voilà les séries d'anthologie qu'on reconnaît aujourd'hui, typiquement c'est Black Mirror, ce genre de choses. Donc des épisodes qui sont reliés par une thématique, et là le seul point de connexion entre les différents épisodes, c'est que ça se déroule dans un espace qui est délimité par le numéro 9. Donc ça peut être, c'est souvent le numéro d'une maison ou d'un immeuble, ça peut être un étage, ça peut être une loge, et à chaque fois, dans cet espace du numéro 9, se déroule une scène. Alors c'est une série qui est très drôle, mais en même temps, je réalise que presque toujours, c'est des histoires de meurtres, de gens qui sont dans la folie, de choses extrêmement gaies, mais voilà, c'est de l'humour britannique dans tout ce que vous pouvez imaginer plus, alors pas caricatural en tant qu'humour, mais en tout cas dans la manière dont vous pouvez caricaturer l'humour britannique, très pince sans rire, très noir parfois, mais ça fonctionne extrêmement bien, il y a une grande... ça va puiser dans un grand camaïeu de genre... et emprunter des codes à gauche à droite de la comédie un petit peu vaudevillesque au film d'horreur d'ambiance au slasher, voilà, d'épisode à épisode vous êtes vraiment amené dans des atmosphères totalement différentes et toujours avec ces deux personnages principaux, donc bon, qui, enfin, c'est pas les mêmes, pardon, c'est deux acteurs principaux qui incarnent des personnages très, très variés justement d'épisode en épisode, mais qui apportent toujours vraiment cette touche extrêmement cynique et en même temps très tendre, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment une recommandation et ça va vous faire passer un peu par tous les styles. Ben, merci pour ce tour de table. Et maintenant, on va laisser nos auditeurs écouter nos débats que j'espère enflammer. On n'a pas encore enregistré les différentes pastilles, mais je fais confiance à tout le monde autour de cette table pour...
Il y aura de la bagarre.
Voilà, pour nous...
La bagarre commence, c'est parti là.
Allez, c'est parti, on se chauffe bien, et puis on va vous parler des films qu'on a pu voir depuis la réouverture des cinémas. Ça y est, on reprend des services. Merci à tous.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.